Alors, merci. Donc, d'habitude, nous fonctionnons avec la lecture d'un psaume en première partie du culte. Hein. C'est un héritage que nous avons reçu des réformateurs. Et nous allons lire des psaumes, merveilleux psaumes. Hein. Seigneur, par ta main, chasse-les de la terre, loin des habitants du monde. Voilà tout ce qu'ils méritent dans cette vie. Remplis leur ventre de choses amères que tu gardes pour eux, que leurs enfants soient rassasiés et qu'il en reste encore pour leurs petits-enfants. Psaume 58. Seigneur, brise leurs dents dans la bouche. Éternel, casse la mâchoire des lionceaux. Ils seront refoulés comme des eaux qui s'écoulent. Il lancera ses flèches et ils deviendront infirmes et le juste dans la joie, car il aura vu la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. C'est merveilleux, hein? C'est dans la Bible, hein? Allez, au chef de cœur, ça veut dire que c'était quelque chose de chanté. Hein? Je ne sais pas si on pourrait faire un clip avec ça. Psaume de David. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante, une bouche rusée. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de paroles haineuses et me font la guerre sans cause. Tandis que moi, je les aime, ils m'accusent. Mais moi, j'y recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-les sous l'autorité d'un méchant. Qu'un accusateur se tienne à sa droite quand il sera jugé, qu'il soit condamné et que notre prenne sa charge, que ses fils deviennent orphelins et sa femme veuve. Oups. Ces psaumes qui nous mettent mal à l'aise. J'aimerais vous parler de cela ce matin. Alors, j'ai bien aimé l'image du fond rose avec des points verts. Et parfois, il y a des points noirs, mais bien noirs. Peu d'auteurs se sont aventurés à parler de ces psaumes. Alors, je suis de nature très curieux, et ça m'a beaucoup intrigué quand j'étais jeune converti. Hein? Ah, c'est dans la Bible quand même, hein? Ça fait plaisir. Quand on a des ennemis, ou quand on vit une injustice. Hein? En tout cas, c'est pas le type de verset à mettre sur un faire-part de mariage, hein, à mettre sur un poster ou qu'on offre à un ami, ou faire graver sur le cuir de sa Bible, n'est-ce pas? Ces psaumes qui nous mettent mal à l'aise. Alors c'est vrai, on était dans un premier temps où on était bien, on a parlé de la joie et du contentement. Mais quand même, il y a des situations dans la Bible et dans les psaumes qui sont écrites. Alors pourquoi? Est-ce que nous devons les lire? Est-ce que nous devons les enlever de nos Bibles? Est-ce que nous devons les prier? Jésus qui chantait les psaumes, les a-t-il prononcés? J'en sais rien. Hein? Mais oui, pourquoi pas? C'est dans la Bible. On pourrait peut-être dire que la Bible justifie même les guerres saintes et les croisades. Alors comment comprendre ces psaumes? Hein? Alors il y a quelques auteurs qui se sont aventurés, donc C.S. Lewis, que j'apprécie beaucoup, et d'autres aussi, qui ont apporté leur réflexion, et ce matin j'aimerais apporter aussi tout cela pour que nous puissions cheminer sur ce chemin avec le Seigneur et voir ce qu'il a fait pour nous. C'est cela le contentement, hein? C'est, comme ça a été dit, c'est reconnaître ce que Dieu a fait de bon. Parfois nous sommes tellement aveugles. À vrai dire, la question n'est pas si ces psaumes nous intéressent ou s'ils nous plaisent ou pas. La vraie question, c'est, ils sont là, mais qu'est-ce que ces psaumes ont à nous dire? Qu'est-ce qu'il y a? Alors tout d'abord, nous devons nous rappeler que ce sont des propos qui ont été qui sont modérés dans un monde cruel. Ouais. Le monde de l'époque, contexte de l'Ancien Testament, c'était, voyez votre voisin le matin avec son gamin sous le bras, hey, salut, où tu vas? Ben, je vais aller sacrifier mon voisin, mon gamin. C'est aussi cruel que ça. Pour un Israélite fidèle à Dieu. On maltraitait les esclaves, on commettait l'injustice, la justice même était corrompue. Les fidèles qui ont écrit ces psaumes vivaient dans un monde absolument cruel. Ce que les justes subissaient, bien sûr, était odieux et pour eux-mêmes, mais aussi pour Dieu. Alors là, il y a l'image d'un dieu Moloch qui était bien connu, qui était appelé l'abomination des Ammonites. Il y a des rois même qui ont sacrifié leurs fils. Alors pas seulement des rois ammonites, mais aussi des rois d'Israël. Les biblistes disent que le culte de Moloch comportait des holocaustes d'enfants et ils étaient brûlés vifs afin de pouvoir obtenir une année fertile et abondante au niveau des semailles. Même certains philosophes grecs ont été choqués par ce type de pratique. Alors pour réagir contre cette coutume, eh bien la loi de Moïse était très claire. Qui fait cela, condamné à mort. C'est simple, Dieu voulait absolument extirper cette manière de faire. Cela n'a pas empêché Salomon d'élever un autel à Milcom, donc pour plaire à ses femmes ammonites. Et des siècles suivants, on a continué à sacrifier Moloch par le feu dans un haut lieu appelé Tophat dans la vallée de Limon. Alors, Linom, et on connaît, ça a donné le mot Géhenne. Et Jésus va utiliser le mot Géhenne pour parler de la perdition éternelle. Ahaz, donc le roi, a fait périr ses propres enfants, nous dit Chronique 28. Manassé immola au moins l'un de ses fils, de roi 21, et les rois d'Israël et les Israélites même du Nord pratiquaient ce rite affreux. C'est donc dans ce contexte de cruauté que ces psaumes ont été écrits. Sans oublier les conquêtes, les invasions des ennemis d'Israël. Par razzia, ils passaient dans une région avec incursion, pillage, violence, captivité, acte de barbarie. Quand on lit la belle histoire de Naaman qui vient se faire guérir de sa lèpre, ça a commencé par quoi ? Par une captive juive qui a dit à Naaman qu'il y avait dans son pays un prophète. Elle a été l'esclave, la fille qu'on a rendue esclave suite à une incursion. Parfois on l'oublie. Vous savez, on voit la Bible, c'est un beau livre dans un monde merveilleux. Alors face à de telles atrocités, évidemment, le fidèle va exprimer sa colère et son désir de justice. C'est plus qu'une simple colère, hein. Parce que, voilà, la voiture ne démarre pas, c'est plus que cela, hein. Alors ces psaumes traduisent la sensibilité de l'homme juste. Celui qui déclare innocent le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel, nous dit le Proverbe 17. Alors nous sommes tous en réalité capables d'une grande incohérence. Je ne sais pas si vous êtes convaincus de cela. Je vous donne un exemple. Vous lisez un livre ou vous regardez un film passionnant. Et là, le méchant se fait poursuivre. Et on s'attache à la cause du méchant. On est presque là en train de l'encourager. Ah, vite, vite, pourvu qu'il ne se fasse pas attraper. On soutient la cause de l'adultère, on comprend la tristesse du traître et on valide le meurtre. Quand même. Quelle incohérence avec ce que Dieu déclare. Il ne déclare pas l'innocent juste, c'est une horreur pour lui. Et le juste comme le juste et le coupable comme innocent. Amos a décrié comme Nahum les injustices sociales. Dans le livre de Nombres, il y a cette illustration absolument extraordinaire. Le peuple est en train de... C'est un peu intercalé, excusez-moi. Voilà, nous retrouvons Nombre 25. Number en anglais, nombre en français. On peut lire l'histoire suivante, les Israélites qui arrivent en terre promise, et là, il y a le roi de Moab qui veut les détruire, et il ne sait pas comment faire, puisque Balaam ne peut que les bénir, au lieu de les maudire, et il trouve une astuce absolument impitoyable, c'est de faire pécher Israël, hein, comme l'ennemi veut nous faire pécher pour nous faire tomber. Alors voilà, le peuple de Dieu à la porte de la terre promise et ils sont en train d'être vaincus par le peuple de Moab. Il y a une prostituée sacrée, une prostitution sacrée qui a lieu et là, d'un coup, Eh bien, à ce moment-là, nous dit Nombre 25, survint un Israélite amenant vers ses compatriotes une fille madianite sous les yeux de Moïse et de toute la communauté. Les Israélites pleuraient à l'entrée de la tente de la rencontre et voyant cela, Phinéas, un petit-fils du prêtre Aaron, se leva de la communauté, il saisit une lance et suivit cet Israélite jusque derrière sa tente. Et là, il transperça tous les deux, l'homme et la femme, d'un coup en plein ventre, et le fléau qui sévissait parmi les Israélites cessa. Alors on peut dire, quel acte abominable qu'a commis Phinéas. Mais le truc, c'est qu'il a, le fléau a cessé. 24 000 Israélites sont tombés ce jour-là, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. On peut crier, oh, scandale, barbarie, on peut envoyer les journalistes de BFM, ah, quelle rigidité de la loi, hein. Mais on peut aussi voir dans cet épisode souligner la grande sensibilité spirituelle de Phinéas face à l'injustice. Une sainte indignation face à un mépris flagrant concernant l'honneur de Dieu. Sans aller jusqu'à cet extrême à laquelle la Bible ne nous y invite pas, où en sommes-nous avec notre sensibilité pour la justice et la vérité? Où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes tourmentés par ce que nous voyons autour de nous et qui ne va pas? Je crains que sous nos excuses de tolérance et d'ouverture, c'est notre confort égoïste que nous ménageons. C'est notre vie qu'on peut continuer à vivre tranquillement. Parfois, nous pensons être ouverts d'esprit. Mais en réalité, c'est une excuse pour cacher notre tiédeur. Notre ennemi devient le confort et notre poison, notre indifférence. Oh, après tout, ça ne me touche pas de près, tant que je ne suis pas concerné. Phinéas aurait pu dire la même chose. Tant que ça ne me touche pas, c'est lui qui pêche, c'est pas moi. C'est lui qui s'est mis dans les problèmes. Nous, on est là, à côté de la tente de la rencontre, on est protégé par Dieu quand même. En fait, la réaction de Phinéas et sa sensibilité a ému Dieu. Face à l'injustice, eh bien, Dieu a été saisi et puis il a dit ceci. Voilà ce que l'Éternel dira à Moïse. Le prêtre Phinéas, lui là, le fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, a détourné ma colère des Israélites. En effet, il a été envers eux aussi sévères que moi. Oui, j'exige d'être leur seul Dieu. Et pourtant, à cause de Phinéas, je ne les ai pas détruits. C'est pourquoi tu leur diras que je fais une alliance avec lui qui apporte la paix. Vous voyez, quand il y a l'injustice, il y a une sensibilité. Et le psalmiste décrit cette sensibilité. Je suis touché par ce qui se passe, Seigneur. Rends aux méchants, regarde ce qu'il fait. Il y a le monde cruel dans lequel ses propos sont modérés et démontrent aussi la sensibilité de l'injuste. Et puis, ce psaume nous parle de l'intimité du fidèle avec son Dieu. Et il nous dévoile un privilège qui est celui du fidèle, qui peut répandre ses sentiments devant Dieu. C'est extraordinaire. Quelque part, ce qui est merveilleux, c'est que le fidèle exprime librement devant Dieu ce qu'il a subi et son aspiration à la justice. Alors on peut imaginer ce fidèle en larmes, avec les mains tendues vers Dieu, en train de dire « Regarde ce que je subis, regarde ce qui se passe !» L'esprit abattu ou en colère, la voix hésitante et même surtout son impuissance à changer les choses. Je ne peux rien changer, Seigneur, mais ça me touche. On est loin de la petite prière avant d'aller se coucher. Hein? Comme on disait à nos enfants, as-tu fait ta prière avant de dormir? On est loin de ça quand même. C'est bien d'apprendre à nos enfants à prier avant de se coucher, bien sûr. Hein? Mais on peut facilement comprendre cela si nous avons été victimes d'une grande injustice nous-mêmes. Oh, même petite, hein, on réagit tellement à l'injustice. Hein? Il y a quelques temps de cela, j'étais très en colère en dedans de moi, j'étais en train de bouillir. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est ainsi? En fait, je me suis arrêté devant Dieu, je dis, mais pourquoi cette colère en moi? Et je me suis rappelé, en fait, que le matin même, il y avait un souvenir qui est venu à mon esprit, comme ça. C'est le neurone souvenir qui est arrivé. Qui m'a rappelé une histoire vieille de 40 ans. Hein? Une injustice subie. Ah, ça nous prend en tripes, hein? Le psalmiste déverse devant Dieu ce qu'il a au plus profond de son cœur. Et le fait d'en parler, eh bien, ça fait déjà du bien pour lui-même, sans que Dieu apporte une réponse. Alors cette colère, elle va s'élever vis-à-vis, enfin, vers Dieu, presque dire, mais Seigneur, tu supportes ça, toi? Est-ce que tu es d'accord avec ce qui se passe? Seigneur, regarde-les! La trahison, les accusations. David dit, je leur fais du bien, ils me rendent le bien que je leur fais par le mal. C'est une prière de demande urgente, d'une intervention pressante, et même une demande à Dieu d'être violent dans son action. Moi, je note la ferveur du psalmiste. Est-ce que nous prions avec ferveur? Est-ce que nous prions avec ferveur? Quand les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Je ne pense pas que Jésus leur a dit, écoutez, vous allez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ta-ta-ta-ta-ta. Mais au contraire, ils ont vu le Seigneur prier avec ferveur, et ça leur a donné l'envie de prier. Vous savez, le leadership, la gouvernance de Jésus, ce n'est pas une gouvernance, écoutez, il faut faire cela, 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 cela. Avec ses disciples, il leur disait, des fois rien, observez le maître. Oh, j'aurais aimé être là, on a les paroles de Jésus dans la prière, hein, mais j'aurais aimé être là pour voir comment Jésus priait. D'ailleurs, il le révèle, hein. Et pensez à la parabole de la veuve et du juge injuste. Vous croyez qu'elle est allée en disant « Hey, rends-moi justice, je t'envoie un SMS, rends-moi justice. » Mais elle est allée avec supplication, avec larmes. « Rends-moi justice. » Voilà. Et ne que dire de sa prière à Gethsémané. En tout cas, lui, le psalmiste, déverse devant Dieu tout ce qui pèse à son cœur. Et dans ces psaumes, Dieu ne donne pas de réponse. Et quand il donne une réponse, nous pensons à Job, hein, elle nous semble même pas évidente. Hein. Ce qu'on peut retenir, c'est que le fidèle qui subit cette violence injuste peut exposer ce qui trouble son cœur dans une ambiance de confiance. Ça fait du bien de parler, de verser ses larmes devant le Seigneur. Je me souviens de cet ado qui disait, moi, un homme, ça pleure pas. Alors, il m'a montré tous les super gars qui pleuraient pas. Et puis, je leur dis, moi, je t'en montre un super gars qui a pleuré. Il m'a dit, c'est pas possible. Jésus a pleuré. Sur Lazare, sur Jérusalem, sur les femmes qui disaient, ah, qu'est-ce qui t'arrive, etc. à la croix. Jésus a pleuré. À la fin du camp, il pleurait, le bonhomme aussi. Hein. Eh oui, c'est normal. Hein. Tu sais, c'est comme un ami qui déboulerait chez toi en plein après-midi et qui te dirait « Regarde ce qui vient de m'arriver !» etc. en colère. Ben, tu es là pour l'écouter. Et tu dis « C'est mon ami. Il exprime ce qu'il y a dans son cœur. Et c'est normal. Tu le comprends. Il est chez toi parce que tu es tout simplement son ami. Le psalmiste est chez Dieu. Parce que Dieu est tout simplement son ami. Ce type de situation reste une véritable épreuve quand même pour notre foi. À vrai dire, allez, disons-le, même quand nous avons tort, Dieu nous écoute. Des fois on dit, non, Dieu se bouche les oreilles. Non, non, il nous écoute. Je pense que c'est le cas de Jonas. Hein, il est bien Jonas, hein. Le gilet jaune, hein. Jamais content. Oh, je sais pas si tous les gilets jaunes sont jamais contents, en tout cas... Oui, non, ils sont pas contents, parce que quand pour démonter la roue qui met un gilet jaune, il est pas content, hein. Il préférerait faire autre chose, hein. L'Éternel dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter, Jonas? Et puis, que fait Dieu? Il prend soin de Jonas, il fait pousser le ricin qui est là, et qui amène de l'ombre à Jonas, vous savez, après sa campagne d'évangélisation. Oh, 3 jours de campagne, et toute une ville convertie. Ouh, quelle efficacité, hein. Mais Jonas n'est pas content. Et Dieu demanda encore à Jonas, est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Hein? À cause de cette plante. Alors ça, c'était plus le boulot demandé, mais c'est à cause de la plante. Et Jonas répondit, oui, j'ai bien raison de me mettre en colère. et de souhaiter la mort. C'est radical, hein? Ben, Dieu l'a écouté. En réalité, mon frère, ma sœur, en dehors d'un péché que nous maintenons flagrant, devant lequel Dieu se bouche les oreilles, hein? En réalité, Dieu ne muselle pas son enfant. Il est tout à fait capable d'entendre nos découragements, comme nos plaintes, nos révoltes, nos tourments, à condition de faire comme le psalmiste, de ne pas l'accuser. Et ça, c'est un point important. Ces psaumes font ressortir que c'est du fond de ses tripes que le croyant parle de ce qu'il vit. Intérioriser la colère peut devenir poison pour notre paix intérieure. Alors, devons-nous réciter ces psaumes de violence, de malédiction, et implorer que le Seigneur casse la mâchoire, hein, pour une ostéostomie ratée pour le méchant, qui subisse une intervention chirurgicale, mais ratée de chez ratée, Seigneur. Comment considérons-nous ces psaumes qui nous mettent mal à l'aise? Alors, j'aimerais maintenant voir cette deuxième partie, avant d'en venir à la troisième partie, qui est la réponse de Dieu. C'est André Wenning, qui est professeur d'Ancien Testament, à Louvain, donc dans une institution catholique, qui a dit « Cela ne me dérange pas de trouver la violence décrite dans la Bible. Ce qui me dérangerait, c'est qu'elle n'y soit pas. Parce que si elle n'y était pas, cela signifierait qu'une partie importante de notre humanité serait complètement absente. » Ah oui. La violence, l'injustice, fait partie de notre vie. D'ailleurs, tous les jours, les informations, les journaux, les médias nous parlent de cela. Regardez ce qui se passe d'injuste, hein, sans avoir la possibilité, la capacité, parfois, de changer les choses. Ceci dit, ces psaumes nous mettent quand même mal à l'aise, au point que dans la liturgie catholique, même si elle a considéré les psaumes comme la parole de Dieu, eh bien, depuis Vatican II, ça a été enlevé. Parce qu'avant, les messes étaient en latin, donc les gens ne comprenaient pas, on lisait ces psaumes. Alors, les catholiques ont dit, bon, il y a un souci là, hein, ça va poser problème. Donc, on les enlève. Hein. Alors, la position protestante réformée, elle les a gardées, les a chantées, mais les pasteurs sont très mal à l'aise. Imaginez, vous invitez quelqu'un et il entend « casse la tête du méchant ». Notre première tentation serait d'opposer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'est l'Ancien Testament, voilà, nous c'est le Nouveau Testament. Hein? Si tel est le cas, c'est oublier que dans le Nouveau Testament, il y a aussi des versets violents. Relisez l'épître de Jude, ce qu'il souhaite aux impies. L'épître de Paul, quelques épîtres de Paul, de Pierre, sans parler du livre de l'Apocalypse. Quand même, c'est présent. Du coup, on opposerait un Dieu de l'Ancien Testament qui serait violent à un Dieu du Nouveau Testament qui serait bon. Mais ça ne marche pas comme ça. Alors, certains l'ont fait comme Marcion au IIe siècle. Il a dit, c'est le Dieu du Nouveau Testament, plein de bonté, donc on va enlever tout ce qui est violent, qui nous plaît pas. Sa Bible est devenue, juste l'évangile de Luc et les Actes. Quand même, hein, c'est un peu maigre. On ne peut bien sûr opposer les deux. Parce qu'aussi, Jésus a cité l'Ancien Testament. Eh oui, donc il a validé la véracité et l'inspiration de l'Ancien Testament. Alors il nous faut garder les psaumes aussi. Et rien dans le Nouveau Testament nous dit qu'il faille renier ces psaumes ou les considérer comme moins inspirés. Mais elles sont quand même là pour notre instruction. La deuxième tentation serait de faire dire à ces psaumes ce qu'ils ne disent pas. Venge-toi, hein? Jésus nous dirait en quelque sorte, vous avez bien entendu ces paroles, mais vous n'avez pas saisi le sens. Ces psaumes nous rappellent que la méchanceté existe réellement dans ce monde, parce que le prince de ce monde est encore bien actif et à l'œuvre, même s'il a perdu. Cette œuvre reste détestable aux yeux de Dieu, mais jamais vous ne lirez dans les psaumes Seigneur, je veux me venger. Non. Le psalmiste, à chaque fois, eh bien, se dirige vers Dieu et lui demande d'agir. Tu m'as rendu justice. Tu as défendu mon droit. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Éveille-toi, au psaume 35, réveille-toi. Non, il parle à Dieu, hein. Pour rétablir mon droit, mon Dieu et mon Seigneur, pour défendre ma cause. C'est pas pour m'aider à me venger et me protéger, hein. Psaume 43, verset 1. Rends-moi justice. Ô Dieu, défends-moi contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes de ruse et de fraude. Et puis, psaume 119, défends ma cause et rachète-moi, fais-moi vivre selon ta promesse. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Celui qui les prend à la lettre pour justifier sa vengeance et sa haine serait dans une grande erreur. Et certains l'ont fait, ce qui a permis à C.S. Lewis de déclarer ceci, « De tous les hommes mauvais, les religieux sont les pires. De tous les êtres créés, le plus méchant est celui qui est à l'origine, qui s'est tenu dans la présence immédiate de Dieu et qui va justifier sa violence aveugle au nom de Dieu. » C'est terrible, hein? Car il justifie sa violence aveugle au nom de Dieu. Dieu ne demande pas à ce que nous nous vengions nous-mêmes. D'ailleurs, remarquez, les victimes qui ont essayé de se venger elles-mêmes deviennent de terribles bourreaux. Terribles bourreaux. David, qui a écrit bon nombre de psaumes, hein, quand il était injustement poursuivi par Saül, ne s'est jamais vengé, même quand il s'est trouvé face à Saül. Comme les martyrs qui sont, vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, sous le trône de Dieu, et qui crient d'une voix forte, « Jusque à quand, maître véritable, tarderas-tu à faire justice concernant notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors ne cherchons pas à nous venger nous-mêmes. La troisième tentation serait de considérer nos pires irritations comme saintes. Vous savez, nous, on est chrétiens, donc si je m'énerve et si je suis en colère contre un non-chrétien, j'ai toujours raison. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. En réalité, ce qui complique ces choses, c'est que nulle part il est dit « j'ai le droit de te détester ». Même si le psaume 139 dit « je les hais d'une parfaite haine parce qu'ils sont devenus pour moi des ennemis ». Alors cette parfaite haine, c'est par rapport à leurs propres injustices, hein, et non pas dire « et j'ai raison parce que moi j'appartiens à Dieu ». Vous savez, on pense qu'après cela, on va se sentir mieux, on va trouver du repos, hein, parce que voilà, hein, on est nous des chrétiens et qu'on peut gérer ça tout seul. Mais on s'aperçoit très vite de notre faillite et on finit par se morfondre et tourner en rond dans nos pensées. Alors, quelle est la réponse de Dieu? Dieu a-t-il une réponse? Alors on peut dire, non, Dieu n'a pas de réponse, et puis il aura une réponse à la fin. Mais je pense que le Seigneur a une réponse qui nous dépasse et par laquelle nous vivons. Le mal, la violence, le péché existent dans ce monde et ils restent réellement odieux devant Dieu. Le but de Dieu, c'est de ne pas nous laisser dans cette violence et dans cette injustice, mais d'ouvrir pour nous un chemin pour que nous puissions nous en sortir. Alors Dieu a trouvé un chemin parfait, mais qui est très troublant. Un lieu où la violence subie par Jésus, complètement innocent, et pourtant considéré comme un coupable, il va recevoir la violence du jugement de Dieu. Sa juste vengeance pour toi et pour moi. La croix, c'est le lieu où l'injustice suprême a été subie. Vous savez, des fois, on pense, on dit et on entend, les méchants, c'est pas nous. Et si les méchants de ces psaumes, c'était nous, envers le Seigneur? C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle de l'évangile et de la croix, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs, et folie pour les païens. cette croix qui est scandale et qui est une folie, eh bien c'est le sort que doit recevoir le méchant que Jésus va endosser. Tim Keller a dit « Jésus a été traité comme nous le méritons afin que nous soyons traités comme il le mérite. » La croix. Jésus a souffert pour nous, pour les injustices qui se trouvent aussi en nous, celles que nous avons et que nous commettons. Nous pouvons sérieusement considérer Jésus comme la victime de nos propres fautes, car même il le dit, hein, que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors là, dans notre cœur, il y a deux pensées qui s'opposent, celle de l'ennemi et celle du Seigneur. Vous savez, l'ennemi nous dit « venge-toi » ou « ne te laisse pas faire » ou « laisse-toi ronger » ou « quelle honte », etc. Et celle du Saint-Esprit qui nous dit « regarde au Seigneur ». Deux réponses avec deux directions différentes, deux voix que nous entendons avec deux invitations différentes. L'un a porté tes regards sur ta propre souffrance, ta propre situation et tes propres plaies, et l'autre a porté tes regards vers ses plaies à lui, la plus grande injustice. Mon frère, ma sœur, il faut un réel brisement et un profond brisement pour commencer à voir ce Jésus souffrant pour toi et pour moi. La croix a été la réponse de Dieu, le lieu où l'injustice suprême s'est exprimée. Aucune des injustices ici-bas, même ceux qui ont subi le fait génocidaire, peuvent dire « j'ai subi pire que Jésus ». La croix, c'est le lieu aussi de repos. Nous connaissons les enseignements, nous connaissons l'histoire de Jésus, nous les lisons, nous les méditons, mais qu'en reste-t-il? Que reste-t-il quand le souvenir de l'injustice vient et ressurgit dans nos vies, chaque fois que ces mauvais souvenirs se manifestent en nous? Alors vous savez ce que fait Satan? Il montrera toujours le problème et proposera des solutions qui engendreront d'autres problèmes. Le Seigneur, lui, eh bien, va nous montrer la solution. Remarquez, ces psaumes nous mettent mal à l'aise, mais ils ne tombent pas dans le piège de « la solution est en nous ». Mais la solution est dans « espère en l'Éternel ». Le Saint-Esprit agit différemment en nous montrant la réponse. Vous savez, Isaïe 53, verset 4, « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé, humilié par Dieu. Mais il était transpercé à cause de nos propres crimes, écrasé par nos fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » L'acte de justice a été prononcé. Vous savez, quand une parole de justice est prononcée, le but de cette parole est d'amener la paix. Une nation, une société sans justice ne peut vivre dans la paix. C'est cela. Et Jésus a pris cet acte sur lui, j'allais dire en pleine figure, mais sur tout son corps, à Golgotha, afin de nous décharger et de recevoir. Nous décharger de tout ce qui nous dévore intérieurement, même sur les choses pour lesquelles nous avons raison. Et recevoir sa justice, son repos, sa paix. La réponse du Seigneur n'est plus désormais le désespoir, mais l'amour. L'amour même pour nos ennemis et l'invitation à prier pour eux. Et puis je finirai avec ça. La croix, c'est aussi le tombeau qui se ferme, la résurrection qui a lieu et son retour. Oui, à chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, eh bien nous souvenons qu'il a dit « je vais revenir ». Pourquoi va-t-il revenir? Parce qu'il l'a dit, oui. Et pour aussi nous rappeler que son règne sur terre sera un règne de justice, où les injustices qu'ont subies les justes seront traitées. Alors le méchant, s'il persiste, sera réprimandé comme ses psaumes le suggèrent, en attendant son retour en gloire, en attendant peut-être que sur certaines choses où nous prions Dieu pour qu'il fasse justice. Et il le fera un jour. Eh bien, le Seigneur nous dit, regardez plus loin. Priez pour vos ennemis, non pour qu'ils périssent ou qu'ils prospèrent dans leur méchanceté, mais pour qu'ils rencontrent celui seul qui sauve d'une condamnation éternelle avant qu'il ne soit trop tard. Mon frère, ma sœur, je prie pour que le Saint-Esprit nous donne la force d'aimer, la force de pardonner comme nous avons été aimés, comme nous avons été pardonnés, et d'arriver jusqu'à bénir ceux qui nous persécutent. Oui, un jour Jésus règnera sur la terre dans une parfaite justice, comme le disent les Écritures. Prions.